Conférence privée du noviciat par le père Marie Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 8 octobre
1992.
Avec le Saint-Esprit, nous avons décidé que dans ce petit cours pour le noviciat, n'assistent que les frères et les sœurs. Ceci pour que on puisse poser des questions quelquefois plus précises qui se posent à l'intérieur d'un noviciat, à l'intérieur de notre vie religieuse, quoi. Je dis ça, c'est pour que vous compreniez qu'il ne faut pas hésiter pour ce cours noviciat de poser des questions très concrètes. Oui. Parce que c'est plus délicat quand... Vous voyez, on ouvre à certaines personnes et d'autres semblent lésés. Alors vous devez prendre une mesure universelle qui soit tout simplement les frères et les sœurs. La charte de charité, même pas les oblats et les oblates. On m'a demandé de vous parler toujours de la vie religieuse, c'est sûr. L'année dernière, on y reviendra peut-être, on a essayé de comprendre comment notre vie religieuse s'enracine dans le mystère de Marie. C'est Marie qui est le modèle de notre vie religieuse. C'est Marie qui a introduit la vie religieuse dans l'Église. La nouvelle Ève. Et elle est mère de notre vie religieuse d'une façon très particulière. Et la vie religieuse caractérise, voyez bien, la vie chrétienne. Je vous avais dit ce matin au cours d'éthique, qu'est-ce qui caractérise l'activité humaine ? Posez-vous maintenant, qu'est-ce qui caractérise la vie chrétienne ? Éthique chrétienne. Et ici, je ne le fais pas d'un point de vue philosophique, je le fais d'un point de vue strictement spirituel. Théologie mystique et spiritualité. La vie religieuse caractérise la vie chrétienne. Et quand le Saint-Père est passé, l'année dernière, quand il est passé à Paray-le-Monial et à Ars et à Lyon, le soir, il voyait les religieux et les religieuses des différents diocèses de France. Tout le monde pouvait venir parmi les religieux et les religieuses. Il a fait son petit discours. Et puis après, le cardinal de Courtrai lui a dit: maintenant, très Saint-Père, parlez selon votre cœur. Le Saint-Père a dit ouvertement: c'est possible que quelquefois vous vous demandez la position que vous avez dans l'Église, étant donné qu'on ne tient pas compte tout le temps de ce qu'est la vie religieuse. C'est vrai. Oui. Au début, ici, quand il est arrivé à Saint-Jodard et à Rimont, le père abbé de Lérins avait demandé qu'on puisse voir tous les évêques des environs de la région pour qu'il puisse y avoir un contact et un petit dialogue. que les évêques puissent nous dire ce qu'est nos projets et qu'on puisse dire ensuite ce qu'on reproche aux évêques. On n'avait pas prévu ça, on avait prévu simplement ce que les évêques puissent nous dire. Et puis les évêques ont dit après, maintenant dites-nous ce que vous nous reprochez. C'était loyal, c'est charitable. Alors, j'ai simplement dit, mais ce que moi je constate, c'est que dans votre planning apostolique, vous n'avez mis aucune place pour les religieux. Vous avez conçu la vie apostolique comme étant uniquement diocésaine. Comme si les religieux n'existent pas dans l'Église. Or, la vie apostolique des religieux n'est pas tout à fait la même que la vie des prêtres apostoliques. Et le diocèse fait partie de l'Église. Et donc le diocèse doit tenir compte de la vie religieuse et de la vie apostolique des religieux. Ils ont du reste été très gentils, ils ont dit c'est vrai, on n'a pas tenu compte d'eux. Et on ramène la vie religieuse à l'apostolat diocésain. Sans voir qu'il y a pour l'Église une place particulière à la vie religieuse. On n'est pas comme un clergé de luxe. Pour la vie contemplative, on fait partie, la vie contemplative fait partie essentielle de la vie d'un diocèse. Dans le temps, un diocèse qui n'avait pas de contemplative, eh bien, trouvait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et la vie apostolique religieuse a une place spéciale dans la vie apostolique. Aussi bien pour le côté des frères que des sœurs. Ils l'ont reconnu du reste. Ils ont dit oui, on n'y a pas pensé. Et le Saint-Père a souligné ça. Je me souviens très bien. Quelquefois, on vous oublie. On ne fait pas attention à vous. Alors moi, je tiens, a dit Saint-Père, à vous dire que vous êtes essentiel à la vie de l'Église. Si on supprimait la vie religieuse de l'Église, et on supprimerait, il n'a pas dit ce que saint Thomas aurait dit, la partie principale. Saint Thomas dit que la vie religieuse est la partie principale de l'Église. Pourquoi ? Parce que la vie religieuse, c'est Marie. Et Marie, c'est la partie principale. Le Saint-Père a dit, on supprimerait la vie religieuse de l'Église, on manquerait quelque chose d'essentiel à la vie de l'Église. L'Église implique dans sa structure la vie religieuse. Et ceci est propre à la vie chrétienne. Dans la première alliance, c'était pas comme ça. Il y avait une partie pour les Lévites. Mais dans les 12 tribus d'Israël, on n'a pas mis une petite tribu, c'est la tribu religieuse. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que toutes les tribus étaient une tribu impliquée par le point de vue famille. La famille des Lévites. Si on s'appelait Cohen, dès que vous êtes en face d'un Cohen, il y avait un dominicain, un père dominicain qui s'appelait Cohen. Donc, il fait partie de la tribu des Lévites. Tous les Cohen, c'est la tribu des Lévites. Et il y a d'autres noms aussi, n'est-ce pas ? Pour la vie religieuse, c'est différent, parce qu'il y a la consécration à Dieu. Donc, vous n'avez pas de petit-fils. D'arrière-petit-fils. Et les sœurs non plus. Donc, si on mettait une tribu, ça serait vite terminé. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça commence par Marie. Et la Nouvelle Alliance, c'est Marie. Et Marie, c'est la vie religieuse. Et la vie religieuse chrétienne implique cette consécration de Marie, ce que l'Église a gardé, ce que l'exégèse strictement scientifique n'accepte pas beaucoup. Mais l'exégèse patristique, donc ce qui fait partie du patrimoine de l'Église, l'accepte entièrement le 21 novembre. Le 21 novembre, on fait toujours, toujours, une fête religieuse à Nitra. Et on aime de renouveler ses vœux sous une forme ou une autre, de dire à Marie qu'on lui est totalement consacré. On le dit tous les jours, mais ce jour-là, on le dit plus. On y ajoute quelque chose, si vous voulez, un petit quelque chose. La consécration de Marie va être ordonnée à sa maternité divine. Et sa maternité divine va impliquer son mariage avec Joseph pour que la maternité divine soit cachée. Comme c'est curieux, vous voyez, le mariage cache la vie religieuse. Si je regarde en Marie, elle est fiancée à Joseph, elle est mariée à Joseph pour être cachée, pour que sa maternité divine ne soit pas dévoilée et qu'elle demeure un mystère caché. C'est très beau, tu restes à voir ça. C'est très beau et c'est très grand de voir ce point de vue-là, parce que ça fait comprendre le lien qui existe entre cette consécration où elle est totalement donnée à Dieu et sa maternité divine. Mais c'est très beau de voir que la consécration de Marie va impliquer la maternité divine. Ce qui montre bien que la consécration religieuse peut impliquer une maternité divine, donc une fécondité apostolique. Et qu'elle implique même toujours une fécondité apostolique. Et que cette fécondité apostolique prend des modalités très différentes pour celles qui sont entièrement contemplatives, pour celles qui sont apôtres, pour celles qui sont entièrement contemplatives, c'est le témoignage de leur vie totalement consacrée à Dieu, liée à la vie, à l'amitié divine, voyez. La vie commune est à la vie religieuse, contemplative, ce que les épousailles de Marie à l'égard de Joseph sont par rapport à la maternité divine de Marie. Ça, c'est vrai. Être solitaire, être unique et solitaire, on n'est pas caché, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Les ermites, ce sont ceux qui reçoivent le plus de visites. Aujourd'hui, tout le monde va taper à la porte des ermites. Quelquefois, uniquement pour demander la bonne aventure. Ou pour demander des prières. Et si un ermite a le téléphone, sa ligne est toujours occupée. Vous lisez SOS. Pour demander qu'il n'y ait pas de pluie et qu'il y ait du soleil. Et on lui offre une dizaine d'œufs pour que sa prière soit plus efficace. Tandis que la vie commune a cet immense privilège qu'elle cache l'ermite, qu'elle cache le solitaire. C'est ce que Sainte Thérèse a très bien compris. Au Carmel, la seule personne qui voit beaucoup de monde, c'est la prieure, qui quelquefois voit énormément de monde. Et prise au parloir du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas l'idéal. Mais c'est ce qui arrive très souvent. Et c'est très curieux parce que ça fait comprendre le mariage de Marie et Joseph. C'est pour l'épanouissement de la charité fraternelle. De façon positive. C'est pour que la charité fraternelle entre Marie et Joseph soit une charité fraternelle la plus grande qui soit, la plus parfaite qui soit. Et la vie religieuse fait cette vie commune pour que notre vie contemplative, de solitaire, soit cachée. Et soit entièrement cachée. Et tout ça est commandé par la vie religieuse. Toute notre vie est commandée par notre consécration première. Elle est vierge, elle est mère, elle est vierge. Et la consécration à Marie implique le point de vue de la virginité du cœur. Implique qu'on soit totalement donné à Dieu et entièrement donné à Dieu. Et cette virginité consacrée à une fécondité, on est source de maternité ou de paternité d'une manière plus profonde que le sacerdoce. Ministériel, faut jamais l'oublier. La maternité d'une Sainte Thérèse, une petite Thérèse, est une maternité plus radicale, voyez bien, que le point de vue de la paternité ministérielle du sacerdoce. Alors, quand un religieux est prêtre, les deux fécondités s'unissent. Et les deux fécondités s'unissant permettent une fécondité plus parfaite. C'est ce qui fait comprendre comment le sacerdoce chrétien n'est parfaitement lui-même que dans un cœur, dans une intelligence de moine, de religieux. Pas dire ça trop à l'extérieur, vous comprenez? Je fais une retraite à des prêtres diocésains, je ne veux pas leur dire ça. Et donc, on doit toujours faire attention. Mais entre nous, nous devons le dire. Et nous devons comprendre ça. Que la vie religieuse dispose par la fécondité spirituelle qui relève de la vie religieuse. Dispose le prêtre à recevoir le caractère sacerdotal en plénitude. Puisse s'épanouir pleinement et totalement. Puisque c'est un caractère instrumental, et donc qui permet un épanouissement. Et qui permet à d'autres de faire l'offrande du sacerdoce pour rester plus caché. Il y a une vocation de frère dans Saint Jean. Il y a une vocation authentique de frère. Pas seulement parce qu'on a des difficultés pour les études. Pas du tout. Vous savez, pour être prêtre, il ne faut pas tellement d'études. Quand vous regardez le niveau habituel, c'est pas ça. C'est pas les études. C'est vrai, c'est pas à cause de ça, c'est à cause d'une vocation plus cachée, analogue à celle de Marie, analogue à celle de Saint François. Une vocation plus cachée et une vraie vocation monastique et une vraie fécondité divine. C'est la même chose pour l'oblature. Si on dit à certains il vaut mieux l'oblature, ça ne veut pas dire du tout qu'on fait descendre d'un cran. Canoniquement, oui, mais on ne juge jamais canoniquement. Le Christ ne nous jugera pas canoniquement. Heureusement. Au dernier jugement, il ne nous jugera pas dans la lumière du droit canon. Je ne crois pas que Jésus s'en sert beaucoup du droit canon. Il suffit de regarder l'attitude qu'il a en face de la femme adultère. Au point de vue du droit canon, c'est assez curieux. Au point renversement complet du droit canon. Et il regarde uniquement les exigences de la grâce. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc même l'oblature ne diminue rien vers la sainteté. Ça exige une intensité plus grande, l'oblature régulière. C'est-à-dire si on vit dans une communauté religieuse et qu'on essaie de la vivre le mieux possible. Oui, je crois que c'est très important entre nous, vous voyez. Il faut qu'il y ait cette communion qui se fait dans la charité et dans la grâce, et non pas des degrés. Ah, il y a profession perpétuelle, profession simple. Il n'y a pas de profession simple à perpétuité. Ça y est, c'est bon, on ne peut pas recommencer tous les 3 ans à faire des vœux. Ça aurait pu exister, on n'aurait plus le demander à l'Église. Puisque les filles de charité, donc, de notre cher Père Vincent, recommencent les vœux tous les ans. Ils font des vœux pour 1 an. Les filles de la charité, elles font des vœux pour 1 an. Et tous les ans, leurs vœux tombent. Et tous les ans, elles remontent. On aurait pu inventer ça. Je n'ai pas pensé. Tu vois, le Saint-Esprit ne m'a pas fait penser. Mais peut-être ce serait bien. On fait des vœux pour 3 ans. Des vœux pour 3 ans. Alors, ce serait des profits simples à perpétuité. Ou ce quoi de mortel. En recommençant tous les 3 ans. Ou en recommençant tous les ans. Parce que ce serait peut-être encore mieux tous les ans. On a l'oblature régulière, qui du reste vous met dans un état de liaison, de lien tout à fait particulier avec le prieur. Le prieur peut, pour un oblat régulier, accorder par exemple le lever du matin, non pas à 6 heures, mais régulièrement à 7 heures. Il a le droit. Quelqu'un qui n'arriverait jamais à se lever, on pourrait très bien comprendre qu'il demande d'être oblat régulier. Et ce qui fait que ça fait une situation canoniquement différente, mais c'est toujours la consécration à Dieu. Cette consécration a comme modèle Marie. Dans cette consécration, il y a les 3 vœux. L'esprit, le vœu est pour l'esprit. Donc le vœu de chasteté pour l'esprit de virginité. Le vœu de pauvreté pour maintenir en nous un esprit de pauvreté. Je dis le vœu parce que le vœu a une matière visible. Et le vœu regarde la matière visible. Mais la matière visible, on peut très bien la respecter entièrement, mais n'ayant pas l'esprit. Alors, à ce moment-là, on serait un pharisien. Je suis religieux, mais je n'ai pas l'esprit religieux. Ça arrive de temps en temps. J'ai reçu comme ça des avis de supérieurs. Ce religieux applique parfaitement la règle, mais sans l'esprit. Et on voit plus souvent l'inverse. Il a tout l'esprit, mais il n'applique pas la règle. Alors à ce moment-là, demandons l'oblature. On a l'esprit, mais on ne peut pas pour des raisons de santé, pour des raisons d'humeur, comme diraient les anciens. On ne peut pas, à cause de ça, vivre pleinement de la règle, et donc on aime mieux selon nos psychologies actuelles. On comprend beaucoup plus facilement le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, que le vœu d'obéissance. Pourquoi ? Parce que le vœu d'obéissance nous unit à une autorité. Et que dans le monde d'aujourd'hui, l'autorité n'est pas tellement acceptée et aimée. Alors, c'est important d'essayer de comprendre de la manière la plus profonde, divine, ce que représente l'esprit d'obéissance. Le vœu d'obéissance porte sur la matière des constitutions. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir lu les constitutions avant de faire des vœux. Pour savoir à quoi on s'engage. C'est un contrat mutuel. Avec une famille religieuse. Et on désire faire partie de cette famille religieuse. C'est un contrat. Et comme il y avait les corporations, formons une corporation. Non pas de cordonnier, non pas de manuel. Formons une corporation religieuse avec un contrat mutuel. Donnant, donnant. C'est pour ça que les vœux se font pour Dieu, mais aussi pour nos frères. Ils se font pour Dieu, mais et ça, c'est très important de comprendre que on est engagé à l'égard de ses frères. On n'est pas seulement engagé à l'égard de Dieu, mais on s'engage à l'égard de ses frères. Et ça, vous voyez, très souvent, ceux qui partent ne voient pas assez ça. Ils croient que du fait même que tu acceptes, c'est fait, c'est suffisant. Ah, attention, on s'est engagé à l'égard de Dieu, à l'égard de ses frères. Et l'obéissance porte à l'égard de Dieu et à l'égard de ses frères. Puisque on obéit à une règle de vie. On obéit à une manière d'appliquer cette règle de vie dans tel couvent. Et on obéit par amour pour Dieu et par amour pour ses frères. Parce que si chacun appliquait sa règle de vie à sa manière, il n'y aurait plus de vie commune. La vie commune est le fruit de l'obéissance. Quand un religieux commence à battre la campagne seul, avec son fusil de chasse, n'est-ce pas ? C'est. Oui, ils ont fait ce geste de. Vous voyez, d'apôtre, hein, qui cherche le gibier, et le gibier rare, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de vie religieuse, il n'y a plus d'obéissance. Et je suis persuadé que l'efficacité apostolique de ce père X, qui j'espère n'arrivera jamais, est beaucoup moins grande. Quand il vit dans la vie commune. Très curieux. Dieu bénit la vie commune. Dieu bénit un apostolat qui se fait. se traduit concrètement dans notre vie par tout ce qui est exigé dans notre vie. Par exemple, de ne pas manger pas en dehors des repas, des choses comme ça, de jeûner durant le grand jeûne, pas tous les jours. On est dans le grand jeûne actuellement, mais on vous dit pas de jeûner, sauf peut-être le vendredi.
L'obéissance
jamais l'oublier. Vous êtes religieux non pas pour devenir plus parfait, pour devenir plus religieux, pour devenir plus parfait dans vos vertus. Vous êtes religieux pour aimer plus, pour avoir une espérance plus grande et pour avoir une foi plus grande. C'est pour vos vertus théologales que vous êtes religieux. En premier lieu, ça ne faut jamais l'oublier, parce que dès qu'on quitte cette perspective-là, il n'y a plus un moteur suffisamment fort pour entraîner ce qu'on représente la vie religieuse. Vous êtes religieux uniquement pour être vertueux, vous n'irez pas loin. Parce que vous vous mettrez à loucher et vous verrez à ce moment-là que peut-être sans la vie religieuse, vous auriez peut-être été plus vertueux. Ça arrive, ça. Mais vous pouvez être sûr que sans la vie religieuse, vous auriez aimé moins Dieu et le prochain. Mais c'est très important, ça. Parce que ça donne l'axe exact de la vie religieuse. Et constamment, on prend l'autre axe plus humain, anthropologique. Les vertus de religion n'ont rien d'anthropologique. Et ça, c'est important, parce que ça fait comprendre que c'est la finalité propre de la vie religieuse. La finalité propre de la vie religieuse, c'est de faire de chacun d'entre nous des hommes, des femmes qui aiment plus Jésus et le prochain. Alors, je m'explique pour que vous compreniez bien ça. C'est toute la structure de la vie religieuse. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance ? L'obéissance, c'est coopérer à quelqu'un qui a sur nous une autorité. Et comme je parle de l'obéissance chrétienne, de l'obéissance religieuse, quelqu'un qui a sur nous une autorité divine. Cette fameuse parole que je vous ai déjà dit, je crois, à certains d'entre vous. C'était le Père Sertilange, que j'ai encore très bien connu. Le Père Sertilange, un étudiant après le vote pour un prieur nouveau, dit au Père Sertilange, ah, je suis heureux de ce vote. C'est un jeune père. Il me comprendra. Tandis que celui qui venait de tomber, c'était un père assez âgé, ayant qui nettement au point de vue au point de vue mentalité, était d'une autre génération. Alors le Père Sertilange le regarde et lui dit, ah, vous n'êtes pas fier. On ne comprend pas du tout. Vous obéissez à un homme. Moi, j'obéis à Dieu. Et j'obéis à mes supérieurs religieux parce qu'ils sont pour moi les représentants de Dieu. Ah, c'est très juste. Vous voyez, si dans la vie religieuse on obéissait à un homme ou à une femme, ça n'irait plus du tout. Parce qu'on aurait l'impression de diminuer. Sauf dans certains cas où le prieur est de beaucoup supérieur à nous, on dirait que ce n'est pas une mauvaise école, mais ce n'est pas toujours. l'évêque. Jamais. Même si on voit que ça vous pend sur le nez. On ne doit jamais chercher l'autorité. On ne doit pas la refuser automatiquement. Parce qu'on mettrait des quantités de personnes dans des situations impossibles. Mais on ne doit pas la chercher. Et si elle nous est demandée, on doit l'accepter comme quelque chose que Dieu nous demande. Vous savez, ce petit détail que Jésus, je crois que c'est authentique. Je ne peux pas le vérifier, mais je crois que c'est authentique. D'habitude, paraît-il, comme je n'assistais à aucun conclave, non sum dignus, n'est-ce pas ? D'habitude, paraît-il, dans un conclave pour élire le pape, quand le pape est élu, avant de voir la petite fumée, ça se dit à l'intérieur de tous les cardinaux. Et paraît-il que le pape, à ce moment-là, le nouveau pape, celui qui est élu, se lève et dit, dans une formule de charité fraternelle, à ses confrères cardinaux, merci de la confiance que vous me faites. Quand le Saint-Père actuel a été élu, il s'est plongé la tête dans ses mains, le geste qu'il aime de faire, voici facilement. Il est resté dans le silence. Tout le monde attendait. Il a simplement dit, Jésus, puisque vous me demandez cette charge, puisque c'est vous qui me demandez, je l'accepte. C'est très beau, voyez ça. Je trouve ça très beau. Il reste celui qui a répété ça, c'est un cardinal qui est mort maintenant. C'est un cardinal, il avait le droit, il n'a pas révélé un secret. Il a révélé une manière particulière dont le Saint-Père, à la différence des précédents, remontait tout de suite Jésus. Et ce qui est parfaitement vrai, il est élu par le pape. Il est élu par Jésus à travers les cardinaux. Il est élu pape par les cardinaux et c'est Jésus qui l'élu. À un moment donné, sous Paul VI, on avait dit, mais il faudrait que ce soit tous les évêques de la chrétienté qui élisent le pape, et non pas uniquement les cardinaux. Et on a compris que non, c'est pas tout à fait juste. Les cardinaux sont élus par le pape, et le pape, en élisant les cardinaux, d'une certaine manière, dispose pour son successeur. Évidemment, peut-être élu pape, tout chrétien baptisé. Tout chrétien baptisé. On le consacrerait tout de suite, prêtre, puis évêque, il serait pape. C'est pas nécessairement, mais ordinairement, c'est les cardinaux. Craignez pas. Alors, il faut comprendre, parce que l'autorité dans l'Église repose sur le Saint-Père. Et c'est une autorité divine. Ce qui fait que l'autorité dans la vie religieuse est une autorité divine. Quand une communauté élit son supérieur, il faut que le pape confirme. Et donc ça dépend directement de l'autorité du Saint-Père. Et l'autorité du pape est liée directement à celle du Christ et de Pierre. très important de comprendre ça. On obéit donc à quelqu'un qui est représentant du Christ. Même s'il y a plusieurs intermédiaires. Continuera ça la prochaine. Et puis vous pourrez noter.